L'ami Bob, encore lui, vient de se marier. Ah, tout irait bien si ce n'est que cet individu ne veut manger que des omelettes. Le matin, chérie, fais-moi une omelette. Le midi, je veux une omelette. Le soir, j'ai envie d'une omelette. La nuit, lève-toi ma poule, prépare-moi une omelette. Ève, son accord épouse, patiente jusque-là, finit par craquer et lui lança « J'en ai marre de tes omelettes! Va dormir dans un poulailler !» Bob, médusé, s'interrogea. Ève rejette le mot omelette? Je rêve. Ève rejette le mot omelette? Je rêve.
Et voilà, ouverture comme à l'accoutumée avec un petit palindrome de Gérard Durand, le gérant du RAR qui officiait avant sur l'antenne de Radio Libertaire dans le cadre de l'émission Civis Pacem, émission à laquelle collaborent maintenant Ariel et Elsa d'ailleurs. Quelques petits... Je me souviens du verre de lait, dit verre Mendès France, distribué avant la récréation dans le préau de l'école maternelle. La mère de Majid fut soulagée quand cette initiative prit fin. Il est vrai que la mère de Majid était la dame de service qui lavait ensuite les verres. Je me souviens que ma mère disait toujours « Non, non, c'est pas la peine » aux amis à qui l'on rendait visite quand ils proposaient d'ouvrir un paquet de gâteaux pour le petit. Oh, des gâteaux que je trouvais toujours meilleurs que ceux de la maison, même quand il s'agissait des mêmes. Elle disait toujours « Non, c'est pas la peine ». Et je me souviens tellement qu'il m'est arrivé ensuite de dire la même chose quand on m'a proposé d'ouvrir une boîte de gâteaux pour Marie ou François. Je me souviens que Mohamed avait passé et réussi son bac à 14 ans. Mais parce qu'il avait que ça à faire, passer son bac et lire des livres, alors que ni lui ni ses parents n'avaient de papier. Je me souviens que la mère de Jean-Claude avait consigné dans l'ancien cahier d'essai de son fils tous les articles de Sud-Ouest sur Fourquet, dit le forcené de Sestas. Je me souviens que Félix avait revendu à son petit-neveu son vieil accordéon qu'il tenait de Verschuren quand le dit neveu avait voulu monter un groupe rock dans la lignée des garçons bouchers et des négresses vertes. Je me souviens qu'il y avait parfois au coin d'une rue jusqu'à 6 cabines téléphoniques en épi doublé. Je me souviens que le père de José avait véhiculé la moitié des escaliers roulants des Halles dans son camion et de multiples de pièces de métal sur son dos maintenant brisé. Il estimait alors avoir bien le droit de les utiliser maintenant, ces escaliers roulants, pour qu'il le porte à son tour. Je me souviens que la vieille Honorine prétendait entendre la radio dans son plombage depuis l'installation de l'émetteur sur la butte Montmartre. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était son voisin Simon qui écoutait chez lui la radio à fond la caisse. Je me souviens de « On ne naît pas misogyne, on le devient » dans une chanson de Stromae. Je me souviens que mon beau-frère avait acheté une montre LIP lors d'une vente militante, Gare Saint-Lazare. Je me souviens que le film « Life of Brian » des Monty Python était interdit au moins de 18 ans en Angleterre pour cause de blasphème. Je me souviens que Philips avait fabriqué des ballons de foot en tassant des feuilles de papier brouillon sous des couches de scotch. Ah, il lui fallait quasiment la durée de toute la récréation pour fabriquer ce ballon. Mais c'est pas grave, hein. C'était pas possible de jouer avec. Je me souviens de « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », y compris d'ailleurs dans une chanson de Jacques Higelin. Et avec le recul, je me demande si c'est pas Arthur H. qui disait ça. Je me souviens que l'hypoténuse vivait tranquille, jusqu'à ce que Pythagore lui fasse une tête au carré. Je me souviens que j'ai lu Michel Strogoff, mais pas Mathias Sandorf de Jules Verne, parce que j'avais que le tome 2. Je me souviens d'une bande dessinée sur la Makhnovchina, en noir et blanc, très noir, sous une couverture rouge, chez un petit auto-éditeur, qu'on ne trouvait d'ailleurs qu'à la librairie du Monde Libertaire.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges rouge de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine contre les Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.
La Makhnovtchina d'Étienne Rodagil sur le disque Pour en finir avec le travail. Quand le disque était sorti, et il faisait partie des disques qui passaient souvent au début dans les années 80 sur l'antenne de Radio Libertaire, je crois me souvenir, je me souviens même que le nom d'Étienne Rodagil n'était pas crédité dessus. Là, c'est la version de Fanchon Damers, avec une explication d'ailleurs, c'est que Fanchon Damers sera à la librairie du Monde Libertaire le samedi 11 mars, ce qui doit nous amener tout logiquement à samedi prochain à 16h pour un concert où elle chantera du Raoul Van Egem d'ailleurs sur le disque Pour en finir avec le travail et d'ailleurs sur le disque aussi Contre la résignation, Chant d'amour et de révolte de Fanchon Demmers. Il y a déjà des chansons dont le texte est signé de Raoul Van Egem. Précisons que ce passage de Fanchon Demmers à la librairie du Monde Libertaire, c'est dans le cadre d'un mars féministe organisé par l'émission Femmes Libres de Radio Libertaire et le groupe Pierre Bénard de la Fédération Anarchiste. Il est bizarre d'ailleurs que sur une année, il n'y ait qu'un mois de mars finalement. Logiquement, pour que la balance se pèse de manière équitable, il serait bon qu'il y ait 6 mois de mars féministe dans l'année, voire 12, ça ne me gênerait pas personnellement. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Aujourd'hui, des créatures autour de la table. Nous sommes 4 barbus ou moustachus plus Elsa. Bah tiens, Elsa, ça va être à toi de présenter en première ce que tu as apporté aujourd'hui.
Alors, j'ai apporté le journal d'un poète de Sergueï Essénine. Comme le dit poème est quand même un peu long, mais il ne peut pas être sauté, c'est parce que ça perturberait la pensée. Donc peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Sinon, il y a toujours les poèmes à dire sélectionnés par Daniel Gélin et les poèmes de mon grand-père Jean-Marie. Et je lirai aussi un poème de Philippe Forcheli, choisi par Laurent.
Alors, ça n'est pas véritablement un poème.
Ah oui,
c'est
je me trompe
un
toujours.
Texte de prose. Mais il y a des poèmes dans cet ouvrage dont tu as le titre sous les yeux.
Les impromptus de la sauvegarde. Histoire vraie d'un petit miracle. Publié chez l'éditeur L'enfance des arbres.
Et bien sûr, Ariel qui revient toujours avec Yves Lecard, avec des textes vraiment très prégnants et qui plongent au cœur. Michel ?
Oui, j'ai un livre de Brésian, c'est des petites nouvelles très courtes, de quelques pages. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'en lire une, on verra.
Et Laurent ?
Eh bien voilà, je suis invité à faire un hommage à Philippe Forcioli, que nous sommes nombreux à apprécier, et donc un hommage de 3 petits quarts d'heure avec la présentation de chansons connues, moins connues, et puis quelques éléments de sa biographie, avec donc une programmation qui n'est pas du tout chronologique, mais qui est plutôt faite avec l'inspiration et la couleur des nuages, on va dire ça comme ça.
Cela dit, si elle doit être biographique et néanmoins légèrement chronologique, il faut expliquer pourquoi on fait un hommage maintenant à Philippe Forcioli.
Oui, Forcioli, Philippe nous a quittés. Philippe nous a quittés le 16 février et il a été emporté par le mal que nous connaissons beaucoup et il est, m'a-t-on dit, a-t-on appris sur les réseaux sociaux, il est parti dans la paix. Il est parti après avoir pu écrire un ouvrage toutes les nuits sur son lit d'hôpital. Et cet ouvrage est sorti avant sa disparition. Il a eu le grand bonheur de l'avoir dans les mains, de faire quelques dédicaces. Et l'ouvrage a fait l'objet de nombreuses commandes. On peut donner un chiffre quand même. Moi, je suis très content de diffuser ce chiffre. Il a déjà l'éditeur très courageux qui a réussi à sortir ce bouquin avant l'échéance fatale, a déjà honoré 700 commandes. Et il y a encore un tirage supplémentaire. Et donc Elsa, tout à l'heure, nous lira un extrait que j'ai choisi pour elle, parce que je dois dire que j'ai dévoré ce livre absolument magnifique, qui comporte quelques poèmes, beaucoup de prose. Ce sont ses impressions au jour le jour. Et il y a beaucoup de « je me souviens » également. Ça m'a rappelé quelques souvenirs.
Ben, commençons tout de suite dans l'ordre anarchronologique.
Les infirmières. Les infirmières sont des anges aux ailes blanches et bleues qui viennent du fin fond des âges pour redonner souffle à la vie qui s'étouffait. Non, non, point des anges ou des séraphins, chérubins, vertus ou principautés. Non, des archangelettes, si ce grade n'est pas un impair impardonnable dans l'ordre martial des armées célestes du Père. Les infirmières ont des mains de miracle qui transforment le moindre petit grain de plomb en or plus doux à toucher qu'un cachemire de grand prix. Les infirmières sont des femmes, des jeunes filles, des enfants, des mamans, des grands-mères, des fiancées, des épouses, des célibataires, des religieuses, des cover girls plus jolies les unes que les autres, et c'est merveille de les voir se transformer chaque fois en encore plus jolies, plus avenantes et plus désirables que la fois précédente. Les infirmières ont, au bout des doigts, une science plus exacte et plus rapide que celle de grands pontes archidiplômés avec beaucoup dans la tête, mais rien au bout des doigts. Les infirmières étaient avec le Père bien avant Adam et Ève. Elles n'hésitent pas à venir consoler le démon quand celui-ci craque un peu dans son titanesque combat contre les œuvres d'amour de celui qui lui a donné des droits ici-bas. Elles ne l'encouragent pas, elles l'écoutent en souriant, lui donnent un petit remontant, et puis s'envole prestissimo car les demandes au ciel et surtout sur terre sont innombrables. Les infirmières ne dorment pas, ne mangent pas, ne se reposent jamais. Elles sont dans la nuit du monde les invisibles ponts lumineux qui perdurent encore de clarté, car elles vont et viennent dans la lumière de la création. Elles sont veilleuses, sans cesse éclairées de l'intérieur. Elles accomplissent les gestes les plus délicats qu'un père amoureux peut donner à son enfant malade. Elles murmurent « Ephata » aux oreilles, et même des plus agonisants, ceux qui vont basculer pour toujours vers cet ailleurs d'où elles viennent. Tendrement, elles les prennent par la main pour les aider à traverser le fleuve en prenant soin qu'ils ne se mouillent pas trop les pieds, car le règlement intérieur du paradis est très à cheval en ce qui concerne les traces de boue sur les allées saintes jonchées de pétales de roses, de pivoines, de pâquerettes et de bleuets. Philippe Forcioli.
Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Il n'y en a plus dedans nos terres, il n'en est plus au champ de blé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Ça voudrait dire que la terre, elle est sauvée. Que la chimie et que la finance n'ont pas tout à fait bouffé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Petite étoile à la crinière du mois de mai. Coquelicot de sang, mon frère, tu as bien fait de résister. Si le retour du petit frère est annoncé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Tous les enfants, les pauvres ont droit à leur bouquet. Pour les mamans, les filles, les vierges, ce brin de printemps en beauté, ce doux baiser couleur de ciel, les bleuets. Lundi, c'est pas demain la veille. Un autre, c'était hier déjà. Il est grand temps que la merveille reprenne sa place ici-bas. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Et l'on verra tous les poètes décorés d'une turquoise végétale de l'ordre de la fleur des prés. Est-ce la pinazzouli? Non, c'est un bleuet. Oui, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oui, c'est une obsession païenne, un couplet. Dans les refrains de mon enfance, à tout bout de champ était chanté. Et moi, j'imaginais que France était bleue.
bleu et bleu et bleu et blanc comme fossé. Le drapeau de Marseille, Méditerranée. J'ai beau vous voir fleurir sur mer, je vous préfère aux champs de blé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Les bleuets. Milliers de sources souterraines retrouvées. Que sur les chemins on égrène simples poèmes en chapelet. Que reviennent les temps bohèmes. La marguerite dit je t'aime. Le coquelicot, j'en mourrais. Et toi, qu'en diras-tu bleuet? Et toi, qu'en diras-tu bleuet? Et lui, et moi, oh, rien qu'un tout petit bouton d'or à la clé.
Eh bien voilà qui nous permet de commencer à saisir le personnage. Je te laisse poursuivre, Laurent.
Oui, un personnage, c'est vrai, Philippe Forcioli, 1953-2023. Le 16 février, il nous a quittés. Alors, avant de nous quitter, il avait déjà donné toutes les indications pour la réédition de ce qu'il appelle une collection florilège. Donc, il y a 3 volumes qui vont paraître. Il y en a déjà 2 qui sont parus. Ce sont des petites merveilles, puisque ce sont des compilations qu'il a lui-même ordonnancées. Et le 3e volume devrait voir le jour. Alors, Philippe Forcioli, un homme qui a commencé à être sur une scène déjà en 1969, il a commencé à écrire les premières chansons, les chanter en 1977, les écrire. Et là, ce qu'on vient d'écouter, Les Bleuets, Le Temps des Bleuets, eh bien, ça fait partie de son premier disque. Alors, son premier disque, il est très particulier parce qu'il regroupe des chansons écrites plusieurs années auparavant. Et donc, il a voulu offrir, justement, on peut dire, ce tout premier florilège de titres aux thématiques très diverses, mais qui sont quand même reliées d'abord par un amour de la nature, ce qui n'était pas trop à la mode à l'époque. Il y a beaucoup de mots, d'animaux, de plantes dans ses chansons. Il est parcouru, il a disséminé tous ces mots dans ses chansons. Et puis aussi, cet amour de l'être humain et cet amour de l'espérance. Parce que c'est un homme qui a conquis sa place dans la chanson sans passer par le système. Il dit d'ailleurs, on va l'écouter tout à l'heure, qu'il n'en était pas, il n'était pas dans la capacité de se colter avec l'industrie. Hein, c'est en quelque sorte ce qu'il a dit, être inféodé à un système. Non, lui, c'est un créateur. Et il a souvent fait appel, d'ailleurs, à ce qu'on appelle des... Il a lancé des souscriptions pour qu'on publie, pour l'aider à publier ses albums. Il a fait plus de 15 albums. Et de temps en temps, il a pu signer avec un label pour lequel nous, ici, on a beaucoup de respect. C'est Le Chant du Monde, qui a fait quand même des très, très belles choses. Et en 1993, eh bien, notre Philippe Forcioli a reçu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. C'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui ne vient pas du système aussi, qui faisait très peu de passage à Paris, qui était beaucoup plus proche de sa région du Sud, car il a vécu un petit peu partout. Bien sûr qu'il est né à Oran, bien sûr qu'il a la Méditerranée en lui, et il a voulu rester dans ces paysages qui devaient lui rappeler des souvenirs d'enfance. D'ailleurs, on va aussi écouter tout à l'heure un très joli souvenir d'enfance. Et donc, il a vécu dans le sud de la France et il a été très bien accueilli par tous les gens qu'il a croisés. Il a beaucoup chanté chez l'habitant. Il a aussi fait des festivals de très grande envergure. Il a alterné le projecteur et la bougie. C'est un peu ma formule qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est-à-dire un artisan. Thank you.
Elle est née, ma divine belle, elle est née, ma divine, petit nez grenadine, petit nez grenadine. Tout le sang dégouline, tout le sang dégouline, c'est la vie qui veut ça, c'est la vie qui veut ça. La maman souffle et pousse, la maman souffle et pousse, c'est un bien qui fait mal, c'est un bien qui fait mal. Femme sage, je vous aime, femme sage, je vous aime. La vie est un combat, la vie est un combat. On voit une tache noire, on voit une tache noire dans le feu du volcan, dans le feu du volcan. Quand le ciel se déchire, quand le ciel se déchirera, qui sera là, qui sera là? On voit une flamme rouge, on voit une flamme rouge. Le mystère va claquer, le mystère va claquer. Mon Dieu, cette cascade, mon Dieu, cette cascade. Un enfant tout entier, un enfant tout entier. Oh, nos rires et tes larmes, oh, nos rires et tes larmes. Dans le bain baptisé, dans le bain baptisé. Si la vie les caresse, si la vie les caresse, naissance est au sommet, naissance est au sommet. La maman est si belle, la maman est si belle, et le papa pas mal, et le papa pas mal. Ses rôles du premier âge, ses rôles du premier âge, éclos juste ils sont nés, éclos juste ils sont nés. Elle est née, ma divine, elle est née, ma divine, petit nez grenadine, petit nez grenadine. Tout le sang dégouline, tout le sang dégouline, c'est la vie qui veut ça, c'est la vie qui veut ça. Dans mon automobile, dans mon automobile, je dessine ce chant. Je dessine ce chant sur la nuit de la vitre, une larme scintille. Oh, ma Judith est née, j'en suis tout étonné. Miracle abasourdi, éclaboussé de vie.
La chanson s'appelle Judith, la petite fille devait s'appeler Judith et doit avoir maintenant 40 ans, non?
Alors, Judith, oui, c'est la fille donc de Philippe, c'est une chanson effectivement que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a une autre petite fille dans son enfance, on va en parler tout à l'heure, elle s'appelle d'ailleurs certainement toujours Asmina, c'est le titre qui viendra bientôt. Là, c'est Judith, parce que voilà, c'est une des chansons qui m'avait le plus marqué. Ça m'a un peu rappelé Cécile, ma fille, hein, Nougaro, dans un style tout à fait différent. Mais il y a ce côté sautillant, le côté sautillant de la joie, de la joie profonde, de la joie sereine, avec des mots qui ont touché beaucoup de spectateurs. Alors, nous avons eu la chance, il y a quelques années, de voir Forcioli au Forum Léo Ferré. Il était venu avec Bernard Abeille, un remarquable contrebassiste. Et puis, en 2020, alors là, en 2020, il s'est passé quelque chose à Paris. Ça s'appelait, c'était au Rendez-vous d'ailleurs, une très jolie salle, les Rendez-vous d'ailleurs, dans le 20e arrondissement. Et là, pour la première fois, on était nombreux à découvrir un spectacle qui s'appelle « Chansons déshabillées ». Avec les chansons de Brassens qui étaient comptées. Voilà. Alors il y avait 6 chansons chantées, mais tout le spectacle, c'était le comédien, le conteur Philippe Forcioli. Malheureusement, je suis en train de faire des recherches, mais je pense qu'il n'y a pas eu de captation, ni pirate, ni officielle. C'est un immense regret parce que c'est l'un des plus magnifiques spectacles qu'on ait vus depuis fort longtemps dans notre capitale, puisque on va d'ailleurs écouter un petit peu de Brassens tout à l'heure. Et puis Philippe avait eu le temps bien sûr, d'organiser avec beaucoup d'amis un concert du 31 mai 2018. Et là, il avait donné rendez-vous à ses amis. 40 ans de chansons à fêter. Alors, parmi les amis les plus, ceux que nous, ici, nous connaissons, bien, il y a Bernard Abeille, bien sûr, dont je viens de parler, il y a beaucoup de musiciens qui ont été des compagnons de route pour les disques, et puis des artistes, chansons plus bifluorées. Julos Bocard, mais c'était à distance. Il y avait Nilda Fernandez, qu'on voit sur scène. Il y avait Bernardo Sandoval, là, le chant à la guitare, la Méditerranée dans sa splendeur. Il y avait France Léa, la comédienne que nous aimons aussi beaucoup. Il y a des choses magnifiques. Michel Bernard était venu, Anne Sylvestre et Jacques Bertin. Alors là, tous ces noms, quand même, bon, c'est aussi, il y a aussi ceux qui n'ont pas pu venir, bien entendu. Et beaucoup, il y a aussi Nathalie Fortin au piano, beaucoup d'autres artistes comme Xavier Charrier, qui a fait partie Chanson Plus. Voilà, 40 ans, c'est un DVD qui a pu sortir, 40 ans de chansons, et c'est un plaisir pour les oreilles et pour les yeux.
Et crève sur la toile ou en feu de ses rêves, qui crie, qui craint, qui croûte peu, c'est Vincent le miséreux, qui souffre un gouffre et peint son sang, bouffé par les anthropophages, qui sue le soufre et chie l'encens, c'est le malheureux Vincent. Qui peste et pue le lourd malheur, qui c'est le rouquin qu'a jamais l'heure, et qui fait peur aux femmes enfants, c'est monsieur le pasteur Vincent. Qui hurle à mort, le vide encore, sur le vieil or sa misère, qui touche au ciel avec du blanc, c'est le fou, le doux Vincent, qui qu'à la corrida des rues, une oreille il a perdue, et qui qu'a parlé au corbeau comme François Poverello, et qui nous crache à la figure tous nos mensonges et la détresse, et qui a subi la torture pour que vérité paraisse, qui n'a jamais pu s'en sortir, et qui appelle de l'arc-en-ciel, qui est un signe pour les paumés, qui est un saint pour les damnés, qui qu'en a vu de toutes les couleurs, un feu soleil dans la poitrine, qui touche au ciel avec du blanc, c'est le fou, le doux Vincent. De nous qu'une poignée de sable, le souvenir très doux des heures passées à table, à partager le pain d'amour,
et des paroles comme cascades. Il ne restera de nous qu'un soleil d'évidence dansant nu et très fou sur l'autel de l'enfance et brûlant gris tous ses cheveux au mystérieux de l'existence. Jusqu'aux berges de nous, j'ai poussé la balade, j'ai bu tous les vins doux des larmes camarades. Le désert est un océan et l'amitié un coquillage. Je m'en vais tout au bout de ma vie de bohème, un poème à genoux sera mon chrysanthème. Ma mémoire est un grand labour des pas sonores de ceux qui s'aiment. Il ne restera de nous qu'une poignée de sable, le souvenir très doux des heures passées à table, à partager le pain d'amour et des paroles comme cascade.
Comme un petit frère de Julos. Tiens, moi j'ai cet avantage sur vous, auditeurs, auditrices, c'est que quand Laurent me fait signe, je sais le titre de la chanson qui démarre. Mais je me demande, à votre place, quand le truc démarre, qu'il y a une musique, c'est toute la magie de la chanson, en combien de vers est-ce que vous allez plonger dedans, comprendre que qui croit, qui crée, qui craque et crève sur la toile en feu de ses rêves, de quoi ça va parler ? Qui crie, qui craint, qui croûte peu, c'est Vincent le miséreux. Magie de la chanson, après quatre vers, ça y est, on sait que ça parle de Van Gogh.
Voilà, l'auteur de 500 chansons-poèmes, comme en parlent certains journalistes. D'ailleurs, il a tenu à publier quelques livres de ses écrits, hein, il y en a plusieurs. Là, j'en ai un qui s'appelle Baladin Baladant, voilà, qu'il avait publié il y a pas mal d'années. Et c'est très touchant parce que la quatrième de couverture, eh bien, et c'est ce que nous venons d'entendre à l'instant. Il ne restera de nous qu'une poignée de sable, le souvenir très doux des heures passées à table, à partager le pain d'amour et des paroles comme cascades. Voilà, donc ça c'était paru aux éditions Le Comte de Thierry il y a pas mal d'années. Ça fait partie des choses que nous cherchons, hein, qui sont pour l'instant épuisées, introuvables, mais nous espérons que la famille de Philippe, les amis vont se mobiliser pour nous permettre de retrouver des objets qui sont des disques, des livres, pour permettre à ces objets d'être à nouveau disponibles et que un nouveau public aussi qui va découvrir Philippe Forcioli, donc 1953-2023, qui vient de nous quitter et qui a eu le temps donc de rédiger toutes les nuits sur son lit d'hôpital pendant plusieurs mois. Des pensées, des poèmes dont Elsa vient de nous lire un extrait, et c'est très très émouvant qu'il ait pu recevoir les exemplaires sur son lit d'hôpital, et il en a fait des dédicaces pour les infirmiers et les infirmières. Alors il y a un monsieur que je voudrais saluer, il s'appelle Jean Lavoué. Jean Lavoué, c'est lui qui est l'éditeur L'Enfance des Arbres, et qui a eu, oui, l'inconscience, le courage, la générosité, tout, l'amitié surtout, pour que cet objet soit là et qu'il puisse être lu, relu, parce que ça se lit très bien. Ça s'appelle Les Impromptus de la Sauvegarde. On peut le commander. Il y en a encore, même si ça part très très bien. Histoire vraie d'un petit miracle. Le petit miracle, ben, je crois que c'est que Philippe Forcioli a pu rester jusqu'au bout en accord avec lui-même et qu'il a eu envie de transmettre ses indignations, ses joies, ses espérances dans un parcours qu'il savait, bref, bien sûr, mais il avait la lumière au bout du couloir.
Ah, donnez-moi des vaches à gauche, à droite, un âne, des brebis, des cyprès, des prairies. Donnez-moi des barrières, un pont sur la rivière, saules et peupliers, aubépine et genêts, des coteaux bien en ligne, en guirlandais de vignes, et des rosiers fringants, fiers à la proue des rangs, talus de pâquerettes. Un homme sous sa casquette et son chien qui le suit, joyeux et sans souci. Ah, donnez-moi les vaches tranquillement qui marchent tout en me regardant de leurs yeux envoûtants. Une cabane en planche, le jardin du dimanche, d'un citadin vénard, chou, patate, épinard, un vol de tourterelle sur une balancelle, une mioche en jupon, tcha-tcha avec son poupon, un écriteau chapelle au croisement m'appelle, à flûte elle est fermée, Saint-Roch est en congé. Ah, donnez-moi des vaches qui jouent à cache-cache entre bottes de foin, de paille ou de sainfoin, le bras sur ma portière, ma route buissonnière joue des panoramas et je souris béat, je sifflote et je plonge vers ce hameau qui songe une péniche, un canal, café de l'amiral. En chaque coin de France, grâce et beauté immense, des puits de poésie, génie de mon pays. Ah, donnez-moi des vaches, des monges aux mille vaches, du Rouergue au Gévaudan et le Grésivaudan, de Balagne en Bretagne, de Camargue en Champagne, des Landes aux Pyrénées, Corbière Dauphiné, de Chartres en Combrailles, des terroirs en pagaille, à que neige mille ans pour aller plus avant, boire à vos paysages comme on aime un visage et le garder précieux dans le secret des yeux. Pardonnez-moi des vaches, des chevaux sans attache qui galopent soudain à hauteur de mon train de roi bohème, dans ce taco que j'aime, mon carrosse à chanson, mes semis, mes moissons. Donnez-moi le dédale des routes vicinales, que je me perde au fond dans ce sous-bois profond, au silence que j'aime, engloutis mon poème et que je touche au cœur de l'absolue ferveur, et que je touche au cœur de l'absolue ferveur.
Eh ben Laurent, tu nous choisis des morceaux de 6 minutes 30.
C'est une des rares radios où on peut se permettre ce luxe. On en parlait hors antenne, hein, tous. On parlait même avec Michel Tourte, qui est parmi nous. On parlait de Locomotive d'Or, Nougaro, 9 minutes et quelques. On peut tous permettre. Et les auditeurs, eh bien, ils auront, je pense, pris du plaisir, comme nous, à écouter ce côté chantant, dansant, sur un thème hautement philosophique, n'est-ce pas? Mais voilà, moi j'adore tout ce que peut dire ce poète sur la nature et comment l'homme traverse la nature, l'homme vit avec la nature de manière aussi intime, aussi forte que lorsqu'il est avec les humains.
Elle avait 2 ans de plus que moi, elle avait 12 ans et 10 mois. Qu'elle était jolie, toute blonde et tout, une kabyle aux yeux verts doux. Asmina Henni, nous reverrons-nous d'ici le paradis. J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu, mon petit amour? Je l'accompagnais de grille à grille, du sortir de l'école au seuil de sa maison. Mais en Algérie, interdit aux garçons de pénétrer dans la chambre des filles. Son papa était un gros notable de mon quartier, inconsidérable. Tu étais l'Algérienne pleine de sous, et moi le petit Romy de rien du tout. Hasmina Henni, nous reverrons-nous d'ici le paradis. J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu, mon petit amour? Quand je suis tombé gravement malade, tu vins affoler chaque jour en ma maison. Oh, ta main sur ma main, mon cœur brûlait battait la chamade. En t'attendant, je faisais des pauses devant le miroir. J'étais Apollon, je ne redoutais qu'une seule chose, c'était la guérison. Yasmina, Henny, nous reverrons-nous d'ici le paradis. J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu, mon petit homme? Et puis j'ai guéri un gris septembre, un méchant bateau m'a emporté loin là-bas, de l'autre côté. Oh, je m'y revois, mon pauvre cœur en cendres. Qu'es-tu devenue, une femme libre ou bien une mouquère toute voilée? Maintenant que l'Algérie m'est loin derrière un fossé, de mon bel émoi, entre ma belle et moi, reste un arc-en-ciel, toi, Yasmina, Henny, nous reverrons-nous d'ici le paradis. J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu, mon petit amour? J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu?
Laurent, tu nous avais dit en début d'émission que Philippe Forcioli était né à Oran, effectivement, et tu nous avais promis cette chanson-ci.
Si douce et si tendre, qui m'a vraiment, qui m'a remué. Alors voilà, c'est le bonheur de la radio, c'est qu'on peut partager dans l'instant, voilà, on partage des sensations, on partage des souvenirs, et puis on partage voilà des émotions aussi. Et cette chanson là, Yasmina, Yasmina, qui est sur l'album Il est passé par ici, un album. Alors on espère. On prie, on peut prier quand on parle de Philippe Forcioli pour que la famille, les amis puissent rééditer beaucoup, beaucoup de disques que nous attendons. Et donc, pour terminer cet hommage, il nous reste quelques minutes. Merci à vous tous de m'avoir accueilli. Eh bien, un texte maintenant, car n'oublions pas Forcioli, conteur merveilleux. Et merci à vous tous pour cette porte ouverte, pour cet hommage à Philippe Forcioli. Et donc, je reviendrai au mois d'avril, mai, pour un deuxième volet, parce qu'il y a une œuvre assez conséquente, hein, 500 poèmes-chansons. J'en apporterai pas 50, mais 5 ou 6 aussi. Merci à vous tous.
Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron. Ce grand chêne, fier sur son tronc. Il eut connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins. Et pires gens qui soient, des roseaux, mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ces petits rejetons, tout juste canne à pêche, pas même mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, le chêne, c'est courant. La fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que, lassé d'être en butte au lazi, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit, sans se retourner, ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de tant s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors en retenant des pleurs le chêne comptant ses malheurs. « Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix. Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé 4 fois par jour. » Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amoureux tenant une racine en main. Comme il semblait content, comme il semblait heureux, ce chêne entre ses amoureux. Auprès de leur chaumière, ils le firent planter. Ce fut alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'y eut rien que la pluie, les chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en 4 et s'en firent un lit et l'horrible mégère. Ayant des tas d'amants, il vieillit prématurément. Un triste jour, enfin, ce couple, sans aveu, le passa par la hache et le mit dans le feu comme du bois de caisse. Amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait, le bougre ? Et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis? Mais qu'est-ce qu'il en sait, le bougre? Et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis?
Eh ben voilà, il y a des gens comme ça qui s'amusent à effeuiller les chansons et à en garder le bois, la racine de la chanson de Brassens se transformer en vieux chêne par Philippe Fortioli.
Voilà, Laurent vous a parlé tout à l'heure du livre chanson-poème Baladin-Baladan de Philippe Fortioli et j'ai trouvé un texte dont l'esprit se rapproche de Yves Lecard, dans sa façon de l'écriture. Je t'écris. La Motte d'Aigle, le 7 mars 1980. Bonjour. Je t'écris parce que c'est matin, parce que c'est printemps qui vient, parce que c'est du vent dans mes veines, et grande veine d'être vivant. Je t'écris parce que c'est vert, parce que c'est tout vert, parce que c'est tout vert, parce que c'est tout blanc. Je t'écris parce que la nudité et l'émerveillement ont eu raison des ténèbres et des calculs, parce qu'un monde nouveau étire longuement ses longs bras blancs, parce que des signes apparaissent, parce que voici des amis qui se redressent et se regardent, et qui se frappent le front, et pleurent de toute leur âme larmes d'océan, et qui rigolent de toute leur gorge d'oiseaux. Je t'écris parce que c'est la poudre de l'amour, Nathan, qu'une étincelle de tes yeux. Je t'écris parce que c'est la confiance et l'évidence ont fait leur nid ce matin dans mes cheveux. Je t'écris à toi, inconnu, mâle ou femelle, parce que ça tambourine à ma poitrine, parce que ça chante abondamment, à cause de ce présent. Et le présent, c'est avant tout une offrande, un cadeau, un présent. Alors voici un soleil capturé ce matin dans l'œil d'une fontaine. Voici deux souliers neufs aux lacets blancs comme des nuages. Voici l'air, de l'eau et un grand désert et des oiseaux. Voici des graines, un grand feu et puis des mots qui sentent, des mots sauteurs, des mots qui sonnent, des mots d'odeur, des émotions, des champignons, des moisissures en éclosion, des mots issus de nos rêves, de nos sèves. Voici de la parlotte, de la rage et du courage, d'aller très flou, très fou, d'aller très sage, dans ce pays rongé de loups, des loups d'argent et des loups de pouvoir, dans l'arrogance et la méfiance et le dédain, dans l'innocence de leur ignorance, et voici de la rage et du courage, d'aller très fou, très sage, mais toujours d'ouvrir la porte à l'ouragan ou à la brise. Bonjour, je t'écris parce que c'est bientôt, c'est Pâques, et qu'à cause de cela, je me sens tellement cloche, et clochard et artiste, ou cloche-artiste. Tiens, pour résumer, et pour semer en mai qui pointe ce mois dernier. Bonjour, je t'écris parce que c'est matin, parce que c'est printemps qui vient, parce que c'est du vent dans mes veines et grande veine d'être en vie et va et vient. Je t'écris parce que c'est vert, parce que c'est tout vert, parce que t'es tout ouvert, parce que c'est tout blanc. Voici des sons, des songes, des soifs, des sangs, des sexes et des prières. Dis, tu comprends l'urgence de chaque seconde ? Philippe Forcelli.
Et quand on entend leur écume.
John Baez, qui d'ailleurs avait chanté aussi en français « Ce sont amis que vent emporte, pauvre Rudebeuf ». Là, elle interprète du Boris Vian, c'est un choix de l'ami Jean-Marie. La musique est d'ailleurs de Claude Vance, qui mit en musique les 23 poèmes de « Je voudrais pas crever ». Et il me semble que ça fait un enchaînement parfait, Michel.
Oui, il se trouve que j'ai une petite nouvelle de Boris Vian. Alors, ça ne sera pas en musique, hein. Je vais devoir vous contenter de m'entendre la lire. Voilà, le motif, ça s'appelle. Au don du mouillet, juge de paix breveté, se curera délicatement l'oreille du bout de son stylo à réaction, vieille coutume barbare contractée des années auparavant, lorsqu'il usait ses culottes sur les bancs du cours La Reine. Combien de divorces ce matin ? Demanda-t-il à son sous-fifre, Léonce Tiercelin. Grand jeune homme de 54 ans, que 19, répondit Léonce. Bon, dit le juge satisfait. Et il aurait ainsi plus de temps que d'habitude pour finir, polir, ébarber et lustrer les phrases enveloppantes sur la persuasion desquelles il comptait pour ramener dans le chemin conjugal les brebis égarées qui allaient se présenter devant lui pour une éventuelle conciliation. Les pieds en l'air, le front dans les mains, il réfléchit donc, tandis que Léonce Tiercelin faisait un peu de mise en scène afin d'impressionner les futurs arrivants. Léonce actionna donc les petits vérins hydrauliques logés dans les pattes de la table et du fauteuil judiciaire, élevant l'ensemble d'une trentaine de centimètres. Il disposa des fleurs artificielles dans un vase pour l'intimité, suspendit au plafond à la place du globe une balance romaine symbolisant la justice, et se drapa dans un grand rideau d'andrinople rouge vif à la manière d'une toge antique. En général, les gens se montraient sensibles à cet appareil et ressortaient soit ressoudés, soit évanouis. Le juge Odon du Mouillet comptait à son actif plus de replâtrage que 5 de ses collègues réunis. Il en attribuait le mérite à sa parole onctueuse, mais Léonce pensait bien que ses propres préparatifs y étaient aussi pour quelque chose. Lorsque le juge suffisamment cogité, il se gratta la fesse en virtuose et dit à Léonce « Garde, faites entrer les impétrants ». Léonce, d'un pas majestueux, fit ouvrir. Jean Piquet et Madame, née Zizine Poivre, entrèrent. « Asseyez-vous, » dit Léonce, d'une voix de garage, c'est-à-dire vaste, sonore et pleine d'huile. Jean Piquet s'assit à droite et Zizine Poivre à gauche. Jean Piquet était blond, mou, neutre, pâle et digne. Zizine Poivre, brune, ardente, mamelue, offrait tous les signes d'une nature fougueuse. Odon du Mouillet considéra sans étonnement d'abord ce couple mal assorti, puis se remémorant les termes de la demande, haussa le sourcil. De fait, c'est Zizine Poivre qui réclamait le divorce, et selon le dossier parce que son mari la trompait. « Monsieur, dit Odon, je vous avoue d'emblée que je suis étonné de constater que vous avez pu délaisser madame pour jeter votre dévolu sur une personne dont le nom figure au dossier, et que mes agents m'ont décrite très ordinaire. » « Ça ne vous regarde pas, » dit Jean Piquet. « Ce sagouin m'a cocufié avec une pochetée, » affirma Zizine, très émue. Odon du Mouillet poursuivit. « Madame, je vous déclare sincèrement que je suis prêt à trouver des excuses à votre action en divorce. Mais peut-être cependant, n'est-il pas trop tard, un effort de compréhension vous rapprocherait certainement l'un de l'autre. » Zizine regarda Jean avec espoir et se lécha les lèvres. « Mon Jeannot, » murmura-t-elle d'une voix enrouée. Jean Piquet frissonna, et le juge aussi. « Madame, dit-il, la question que je dois vous poser est très personnelle. Votre mari vous trompait-il parce que vous dérobiez à son étreinte ?»« Ah non, alors, protesta Jean Piquet. C'est même pour ça qu'il s'interrompit. »« Continuez, cher monsieur, insista Odon. Je m'excuse, mais votre cas me paraît si particulier que je ne peux m'empêcher de considérer... de le considérer comme riche d'enseignement. Pour tout dire, mon juge, intervint Zizine, j'en veux plutôt trois fois qu'une. Trois fois, plutôt ciel, soupira Jean Piquet. Abasourdi, Léonce Tiercelin se boucha, se moucha et fit sauter la compagnie. « Enfin, si je vous suis, monsieur, dit Odon du Mouillet, vous trompâtes madame parce qu'elle exigeait plus d'amour que vous n'étiez en mesure de lui en accorder. » « Exactement, répondirent d'une même voix les deux conjoints. Et vous ne faisiez rien avec l'autre ?» insista le juge, au mépris de toute discrétion. Passa Glapizizine, l'ongle sur les dents. Effondré, le juge interrogea Léonce du regard. « Que faire ? Dit-il. Je ne comprends rien. Pourquoi la trompez-vous alors ?»« C'est pourtant simple, monsieur le juge, expliqua Jean Biquet d'une voix calme et posée. S'il faut que je divorce, c'est que je ne peux pas vivre sans femme. »
Merci.
Elle s'est levée à son approche. Debout, il était plus petit. Elle se dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, et c'est pour mon lit. Il lui arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il l'a suivi jusqu'à sa piole. Elle a crié, vas-y mon loup.
Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Elle a regardé d'un air bête, il comprenait rien le malheureux. Il lui a dit, désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il l'énervait, elle l'a giflé et l'a grincé d'un air farouche.
Fais-moi mal, Johnny, 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 je ne suis pas une mouche.
Si.
Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais du mal.
Voyons qu'il ne s'excitait guère. Elle l'a insulté sauvagement. Elle lui donnait tous les noms de la terre et encore d'autres bien mancourants. Ça l'a réveillé aussi sec. Il lui a dit, oh, arrête ton char. Tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire.
Tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier, mais à lui laissa une épaule de mise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant, elle a des bleus plein les fesses et elle ne dira plus jamais.
Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Je vais, d'accord, je viens, d'accord, mais attention, hein, je me retiens.
Quelle chute, effectivement. C'est Fais-moi mal, Johnny, de Boris Vian et Goraguer, dans la version ici des Charlots. Michel, un petit mot supplémentaire pour expliquer de quel recueil venait ce texte ?
C'est un recueil qui, effectivement, a été édité finalement récemment, enfin relativement récemment, puisque c'était. J'ai vu la date tout à l'heure. Alors pourquoi il y a deux dates d'ailleurs ? C'est peut-être. 1981-2005, alors bon, ça veut dire que c'est. Enfin, tout, donc c'est assez récent, c'est peut-être pas très connu, ces petites nouvelles-là. Ça s'appelle Le Ratichon Baigneur. C'est le titre du livre et d'une des nouvelles du livre.
Et maintenant, faites entrer Jean-Marie.
El Rio. Je suis un fleuve. Je coule sur les larges pierres. Je coule sur les roches dures, suivant le sentier dessiné par le vent. Il y a des arbres aux alentours assombris par la pluie. Je suis un fleuve. Je coule à chaque fois plus furieusement, plus violemment. Je coule à chaque fois qu'un pont me reflète dans ses arches. Je suis un fleuve nocturne. Je traverse les torrents profonds, les villages inconnus, oubliés, les villes remplies de gens devant les vitrines. Je suis un fleuve. Je traverse les prés. Il y a des arbres aux alentours couverts de colombes. Des arbres chantent avec le fleuve. Des arbres qui chantent avec mon cœur d'oiseau. Les fleuves chantent avec mes bras. Nous sommes moins nombreux, mais qu'importe. Nous sommes armés et avons foi dans le peuple. Paysans, ouvriers, étudiants, le moment est venu de tous nous soulever pour semer dans la terre de notre Pérou une ville nouvelle avec nos machettes, nos fusils, nos fauves et nos marteaux. Qui pourra nous arrêter, même si nous sommes moins nombreux maintenant, mais tous unis contre l'opposition qui gouverne? Javier Héroux.
Voilà, ça c'était le choix de Jean-Marie. Dans 12 minutes sur l'antenne de Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire avec un invité qui est déjà arrivé. Il nous manque encore Robert de Terre pour l'animation, mais ça ne devrait tarder. Et si vous prenez les trois lettres les plus utilisées dans la langue française, il y a le E, le S, le A. La lettre L vient un peu plus tard, mais avec ces quatre lettres, vous pouvez former Elsa. C'est à toi.
Alors, j'ai choisi finalement de lire le long poème de Sergueï Essénine parce que, disons qu'il colle avec l'actualité. Alors, le poème en question s'appelle « Caravelle à Ridelle ». L'introduction est intéressante à lire aussi pour désannoncer le poème. Dans ses mémoires, Anatole Mariangoff, qui vivait avec Essénine dans cette terrible année 1919, décrit ainsi le spectacle qui inspira ses vers au poète. En ces jours-là, l'homme s'avéra plus endurant que le cheval, car les chevaux s'effondraient et crevaient sur place dans les rues, obstruant les chaussées de leur masse, tandis que l'homme trouvait encore la force de regagner l'écurie. S'il s'écroulait une fois chez lui pour ne plus se relever, les choses du moins se passaient à huis clos, derrière un mur de pierre et sous un toit de tôle. Or ce jour-là, Essénine et moi, nous suivions la rue Miassiskaya. À en faire le compte d'un regard hébété, il y avait là trois fois plus de cadavres équins que de flics, habituellement postés entre la rue Bogoslovski et les Krasnivoroti. À la hauteur d'un bureau de poste, nous butâmes contre deux énormes masses démesurément enflées. L'une noire et sans queue, l'autre blanche, les lèvres retroussées en un rictus hideux. Posés sur la masse blanche, deux corbeaux achevaient d'en becqueter l'une des cornées dans leur orbite vide. Un blanc bec au nez en trompette et en chapeau melon brun sur une petite tête blondasse se mit à leur lancer des pierres. Les corbeaux s'enfuirent à tire d'aile noire en ripostant de leur croassement contre l'intrus. Voici le poème. Si le loup hurle à l'étoile, c'est que les nues ont englouti le ciel. Aridelle éventrée, noire voilure des corbeaux. Des hoquets nauséabonds du blizzard, l'azur ne sortira pas ses serres. Il plane sur un jardin de crânes jonchés d'aiguilles d'or, sous le hennissement des tempêtes. Entendez-vous ? Entendez-vous ce cliquetis ? Ce sont les râteaux de l'aube dans les bosquets. Avec des rames de mains coupées, vous souquez vers le futur. Voguez, voguez vers les hauteurs. De l'arc-en-ciel, craillez, corneille. L'heure vient où la feuillée jaune de ma tête va se muer en arbre blanc. Plaine, ô ma plaine, quel est cet appel ? Ou ne serait-ce qu'un joli songe gai ? Le seigle bondit, cavale bleu franchissant hameaux et forêts. Le seigle ? Non. Le froid bondit à travers champs, vitres brisées, portails béants. Le soleil même s'est mis à geler, flasques de hongres abandonnés. Qui est-ce ? Marie-Cy, dis, qui es-tu ? Qui donc sasse et ressasse l'écume de tes neiges ? tandis que sur les routes, les chiens gueulent affamés, sucent la frange de l'aube. Quel besoin aurait-il de courir là-bas ? Ici, chez les hommes, ne fait-il pas meilleur vivre ? Dieu a donné à la louve un petit. L'homme a mangé l'enfant de la louve. Ah ! Qui chantait ? Qui chantait sous ces folles lueurs de Maccabée ? Du nombril des femmes, regardez. Un troisième œil sort de l'œuf. Le voici. Il est sorti. Il a l'air d'une lune. Ne pourrait-il se trouver os plus charnu ? Avec ma chanson de l'hôte miraculeux, je fus bel et bien ma propre dupe. Mais où sont les autres, les 11 autres que brûlent les mèches de tétons ? Si lubie te prend, poète, de te marier, opte pour la brebis au bercail. Comme unie de laine et de paille, lentement consume la cire de tes champs. Octobre mauvais, arrache leur anneau aux mains brunes des bouleaux. Bête, venez à moi. Venez, bête farouche, et penchez toute haine dans la coupe de mes mains. Il est grand temps que la lune, là-haut, cesse enfin de laper les nuages. Sœur chienne, frère chien, traqué comme vous parmi les hommes, qu'ai-je à faire de carivelles à ridelles ou des chevaux ou des voilures de corbeaux ? Si la faim suintant de murs en ruine vient à s'agripper à ma chevelure, je mangerai la moitié de ma jambe et vous offrirai l'autre en pâture. Je n'irai nulle part avec les gens, mieux vaut crever ensemble avec vous que de ma terre aimée ramasser une pierre pour la lancer sur mon fou. Le prochain. Je veux chanter, chanter, chanter. Je n'offenserai ni chèvre, ni lièvre, qui trouve encore à s'affliger, trouve aussi matière à sourire. Tous, nous tenons la pomme du bonheur, mais en chacun, le coquin n'est pas loin. L'automne, sage jardinier, saura bien de ma tête émonder la feuillée. Au jardin de l'aube, ne mène qu'une sente, et le vent d'octobre avalera le petit bois. Le poète vient en ce monde, non pour prendre, mais pour comprendre. Il vient caresser la vache, prêter l'oreille du cœur au bruit de l'épi. Taille, taille, serpe des poèmes, arbrisseau de soleil, sème le merisier. Donc, écrit en septembre 1919.
Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды и крупнее, и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было, стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю.
Mulat Okudiava, chanteur... il est était géorgien, arménien par sa mère et russe par sa langue natale également. On va se quitter pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, c'est Bulle Noire. Il me semble que ça me laisse tout juste le temps de vous glisser un texte par Evelyne. On se retrouve la semaine prochaine avec encore des textes, Ariel.
Oui, bien sûr. Oui. Elles attendent.
Cette fois-ci, ce sera en tête Daniel Gélin et mon grand-père Jean-Marie, et selon le temps imparti, un autre Essénine. Enfin, surtout selon la taille du poème. Je ne sais pas à l'avance.
Voilà, et puis on aura Sophie qui nous proposera aussi quelques choix de textes, et Michel arrivera au pied levé pour nous dire ce qu'il aura choisi.
Ben là, c'est les prochains sont des textes un tout petit peu plus longs. Voilà. Donc c'est pour ça que le texte de Forcelli était plus de primeur que celui de Yves Lecard. Mais la façon d'écrire était très proche de jongler sur les mots.
Voilà. Allez, Madame Evelyne, c'est à vous.
Ce que j'aimais bien, c'était professeur de littérature, de grec et de français, qui s'appelle Georges Lézan, de Montastruc, Tarn-et-Garonne. Et donc, pour lui, je vais dire ce poème. Je vous aime, disait-il. Comme le pigeon aime la colombe, comme l'insecte nocturne aime la lumière. Trop tard, répondait la vivante. Repoussez cet amour défendu. Je suis mariée. Voyez l'anneau qui brille. Mes mains tremblent. Je pleure et je voudrais mourir. Les barques étaient arrivées à un endroit où les chevaux légers savaient qu'un écho répondait de la rive. On ne se lassait point de l'interroger. Il y eut des questions si extravagantes et des réponses tellement pleines d'à propos que c'était à mourir de rire. Et le mort disait à la vivante, nous serions si heureux ensemble. Sur nous, l'eau se refermera. Mais vous pleurez et vos mains tremblent. Aucun de nous ne reviendra. On reprit terre et ce fut le retour. Les amoureux s'entraimaient et par couple, aux belles bouches, marchaient à distance inégale. Les morts avaient choisi les vivantes et les vivants des mortes. Un genévrier parfois faisait l'effet d'un fantôme. Les enfants déchiraient l'air en soufflant les joues creuses dans leurs sifflets de viorne ou de sureau, tandis que les militaires chantaient des tyroliennes en se répondant comme on le fait dans la montagne. Dans la ville, notre troupe diminua peu à peu. On se disait « Au revoir, à demain, à bientôt ». Beaucoup entraient dans les brasseries, quelques-uns nous quittèrent devant une boucherie canine pour y acheter leur repas du soir. Bientôt, je restais seule avec ces morts qui s'en allaient tout droit au cimetière, où, sous les arcades, je les reconnus, couchés, immobiles et bien vêtus, attendant la sépulture derrière les vitrines. Ils ne se doutaient pas de ce qui s'était passé, mais les vivants gardaient le souvenir. C'était un bonheur inespéré et si certain qu'ils ne craignaient point de le perdre. Ils vivaient si noblement que ceux qui l'avaient encore les regardaient comme leurs égaux, ou même quelque chose de moins, admirez maintenant leur puissance, leur richesse et leur génie. Car y a-t-il rien qui vous élève, comme d'avoir aimé un mort ou une morte? On devient si pur qu'on en arrive, dans les glaciers de la mémoire, à se confondre avec le souvenir. On est fortifié pour la vie, et l'on n'a plus besoin de personne. C'est extrait de La maison des morts, Guillaume Apollinaire. Alcôve.